Merci, chers amis. Merci, Sir Sangha, de me permettre de revenir chez nous, avec vous. J'ai reçu hier soir un beau vidéo de Lily. Et ça me rappelle que mon pays, ce n'est pas un pays, comme on disait. Alors ici, c'est l'hiver aussi. Mais c'est une autre sorte d'hiver. Je vais commencer par vous souhaiter une bonne et heureuse année. Ça fait longtemps depuis la dernière fois qu'on s'est vu et parlé. J'espère que tout va bien chez vous, pour vous. Et je vous souhaite donc une excellente année dans vos familles et dans notre sangha. Aujourd'hui, je suis à Saigon, Ho Chi Minh Ville. Ça fait presque 2 mois que je suis parti du Canada. Les jours, les heures, les mois ont passé très vite. Et j'ai pris un peu de temps pour aujourd'hui en attendant la connexion d'essayer de me remémorer ce que j'ai fait depuis tout ce temps. Je ne sais pas si j'ai eu la chance de vous raconter mon séjour au monastère de Hong Kong. J'ai passé 10 jours avec les monastiques à Hong Kong. C'est un temple qui nous a été prêté. Et il y a Gilles, si vous m'entendez, je ne sais pas pourquoi j'entends beaucoup beaucoup de bruit. Donc c'est un très très beau temple qui nous a été prêté et il y a une communauté d'une douzaine de moniales et d'une douzaine de moines. Ils se lèvent tous les matins, chaque matin à 4h30. Ils font leur méditation, leur récitation. Ils font une marche méditative. Ils prennent le petit déjeuner. À 10 heures, ils ont fini leur. Ils ont des cours pour à peu près 2 heures, puis le lunch. Après le lunch, ils ont une sieste. Et en après-midi, ils ont des travaux communautaires, le souper et. Une autre période de pratique le soir qui change dépendamment des occasions. Ce que j'ai retenu et ce que je voudrais peut-être nous partager, c'est 3 choses. Leur assiduité dans la pratique, ils pratiquent régulièrement, constamment, tous les jours, chaque jour. Ils sont légers et joyeux. Et ces deux choses-là que j'ai trouvées inspirante, Je pense que c'est grâce à la communauté. Et maintenant que je nous vois sur cet écran, je suis tellement heureux de pouvoir nous voir en communauté ensemble, chanter la Prajna Paramita, écouter un excellent enseignement, un enseignement très profond de notre maître. Savoir que nous allons passer toute une journée ensemble dans la joie et dans le calme. Je nous regarde, je nous vois et je vois que nous pratiquons exactement comme les monastiques du village des Pruniers à Hong Kong. Mon seul en tout cas, rêve, souhait, je ne sais pas, illusion. Non, c'est que nous puissions avoir ces occasions d'être ensemble le plus souvent que possible. Parce que nous ne sommes pas de monastiques et nous ne pouvons pas le faire à chaque jour, tous les jours. Mais nous pouvons le faire une fois par mois, ensemble, dans une journée pleine conscience. Nous pouvons aussi nous voir une, deux ou trois fois par semaine en soirée. Et c'est précieux. Alors tout ce que nous pouvons faire pour nous rapprocher de cette pratique qui est une preuve, une manifestation très concrète des enseignements que nous avons souvent entendus de la part de notre maître et que je vous ai aussi, que je nous ai souvent rappelé aussi. Les trois caractéristiques de l'enseignement du village des Pruniers, de la diligence. La pratique qui se passe à chaque instant peut se passer à chaque instant. C'est ce que les monastiques peuvent faire, pouvoir faire en communauté. Nous n'avons pas cette chance, mais nous avons la même quantité d'heures par jour qu'ils ont. Nous avons aussi 24 heures. Plusieurs de nos activités quotidiennes peuvent aussi devenir des occasions pratiques. La joie qu'ils peuvent avoir, qu'ils manifestent ou qu'ils ont sont aussi possibles pour nous. Là où nous sommes. Donc, ce court séjour au monastère de Hong Kong m'a rappelé ce qui est le plus important dans notre pratique, qui est celle de la joie à chaque instant. Et si cet instant n'est pas joyeux, il va passer, il est passé. Le prochain est toujours là. L'instant présent est toujours là. Et chaque instant peut être, devrait être. Chaque instant est un instant pratique dans notre tradition. Et c'est mon souhait de pouvoir nous offrir mutuellement les occasions, les opportunités, les chances de pouvoir mettre cet enseignement en pratique dans notre vie à chaque jour, quand nous nous levons le matin. C'est plus facile de se lever à 4 heures lorsque on a 25 autres, 30 autres amis qui se lèvent en même temps que qu'on se réveille tout seul. Ma mère vit tout seule dans son appartement à Montréal et je sais qu'elle se lève à chaque matin à 4h30. Elle fait les mêmes pratiques que ses consœurs qui sont dans le monastère de Rosemont. Elle n'a pas la santé physique qui lui permette de pouvoir être dans cette communauté, mais ce n'est pas la distance ou la séparation qui l'empêche de le faire, parce qu'elle sait que les distances ne sont que des signes. Et si nous sommes assis dans notre condo, si nous sommes assis dans notre salle de méditation et que nous pouvons être pleinement présents, nous pouvons aussi être avec non seulement les pratiquants de notre tradition, mais aussi avec tous les autres pratiquants, avec les grands êtres, avec notre maître, avec notre pleine présence. Donc, la pratique à chaque instant. Commence avec nos premiers instants de la journée. Je me lève en souriant. Pour remercier 24 heures toutes nouvelles. Je fais le vœu de les vivre dans la pleine conscience et de regarder tous les êtres avec les yeux de la compassion. Si nous nous levons à 8h30 et que notre bureau commence à 9h, c'est très difficile de pouvoir se lever en souriant et de prendre le temps de pouvoir accueillir une nouvelle journée. Donc, se lever de bonne heure est une pratique, est une condition de pratique primordiale. Je me souviens d'un article, d'une entrevue que le Dalai Lama a donnée, je ne sais plus quand. Et c'est un journaliste qui lui demande, mais vous êtes toujours à la télévision, vous êtes toujours en train de faire quelque chose, est-ce que vous pratiquez? Et le Dalai Lama a répondu, vous savez, quand je vous rencontre, quand je rencontre les journalistes, j'ai déjà tout fait ma journée. Parce que le Dalai Lama aussi se lève à 4h30 du matin. Et lorsqu'il voit les journalistes ou les reporters ou le public à 9h, il a déjà tout fait, ses prières, ses prostrations, ses prosternations, tout est fait. Et c'est grâce à cette pratique assidue, continue, qu'il peut s'engager dans toutes ses activités avec la solidité d'un vrai maître. C'est aussi ce que Thay Nguyen, notre maître, fait. Lorsqu'on lit ses livres, on peut s'apercevoir aussi que Thay a fait sa méditation au marché du matin très tôt. En fait, souvent il fait sa marche méditative matinale dans l'obscurité parce que le soleil n'est pas encore levé. Et il raconte, je marche et près de chez lui, il a planté plusieurs cèdres et il peut reconnaître par leur odeur. chaque être dit, je sais que tu es là parce que je suis ici. Ce n'est pas parce qu'il le voit, c'est parce qu'il est là. Se donner le temps, arranger son horaire quotidien pour pouvoir se donner les ouvertures, les places, les ouvertures dans notre journée, dans notre calendrier, pour pouvoir faire cette pratique personnelle et importante. J'ai envoyé à Lily deux ou trois images. Lorsque vous aurez la chance de pouvoir le projeter, vous pourrez voir le voisinage dans lequel je vis présentement. Il y a une pagode, la pagode Salai, Shariputra. C'est une pagode que notre famille a aidé à contribuer à établir, à construire. Et c'est aussi un site historique parce que c'est là que les grands événements de 1963 se sont passés et qui a amené la chute du régime de Ngô Đình Diệm, un régime totalitaire qui opprimait les bouddhistes. Et pourquoi est-ce que c'est un événement historique? Parce que après ça, après le régime, après la chute du régime de Diệm, c'est l'arrivée et l'invasion, entre guillemets, des troupes américaines au Vietnam, qui a mené à une guerre où l'escalade de la guerre est devenue beaucoup plus intense à partir de cet événement. Donc c'est cette pagode-là qui est dans le voisinage et où je vais aussi souvent que je peux le matin quand je fais ma marche. Il y a aussi une autre image, c'est l'image du parc Thukwangduk. Et Thukwangduk est ce moine qui est consacré Bodhisattva dans notre pays présentement. Et le monument qui est là est une réalisation de, non, est le résultat d'un des voyages de Thaï au Vietnam. Thaï a suggéré au gouvernement vietnamien d'ériger un monument à la mémoire du Bodhisattva Thukwangduk, le moine qui s'est immolé par le feu dans les années 60 pour faire entendre à l'Occident les pleurs du peuple vietnamien. Alors, c'est aussi un parc devant lequel j'aime me recueillir et qui est juste à deux pas de mon appartement, à deux blocs, à deux coins. Le Vietnam, Saigon. J'y suis seulement depuis quelques semaines parce que ma fille est venue me rejoindre au Vietnam et donc j'ai passé 3 semaines avec elle à voyager pour lui montrer le pays. En la regardant, j'ai pu aussi, j'ai pu me voir, j'ai pu nous voir, j'ai pu voir toute ma famille et ma communauté du Canada en elle. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé découvrir, quelque chose qui était inattendu, c'est son amour pour ce pays. Elle a adoré, elle a aimé. Elle-même n'est pas sûre pourquoi. Mais je soupçonne que ce sont ses racines ancestrales. Et pourquoi je voulais vous partager cette constatation, cette expérience. C'est peut-être la possibilité ou la réalisation que les graines que nous portons en nous sont nombreuses. Notre esprit, notre alaya contient toutes les graines. Et dépendamment des conditions, dépendamment de l'environnement, des graines que nous portons en nous de façon complètement insoupçonnée peuvent se manifester aussitôt qu'elles sont dans un environnement qui leur est propice. Ma fille a été exposée à un environnement qui a touché ses graines vietnamiennes. Nous avons comme élèves étudiants disciples de Thaï, des graines du Bouddha, les graines du bouddhisme. Et la dernière fois que je nous ai parlé, je vous avais mentionné que nous sommes en train d'étudier le Sutra du Diamant, un sutra qui est adressé aux fils et filles de bonne famille. Je vous avais mentionné que pour moi, fils et filles de bonne famille veut dire des personnes qui ont reçu des conditions favorables pour pouvoir recevoir les enseignements du Bouddha. Fils et filles de bonne famille parce que nous avons la chance d'avoir eu nos graines exposées et arrosées et encouragées. Et notre présence ensemble est une manifestation de ces graines et font de nous des fils et filles de bonne famille, dignes de recevoir les enseignements du Sutra du Diamant. Les enseignements du Sutra du Diamant sont profonds. Nous pouvons le lire et Thaï nous encourage à le chanter, à le réciter souvent. À le chanter et à le réciter souvent pour pouvoir continuellement arroser les graines de sagesse qui sont profondément enfouies en nous. Les exposer à cette lecture, les exposer à cette pluie, pour leur donner la chance de pouvoir être touchés par la pluie. Le sutra du diamant, nous pouvons en parler, nous pouvons en discuter longtemps. Mais le sutra du diamant ne peut pas, n'est pas un sutra qui peut être expliqué par des mots ou discuté. C'est un sutra qui est à découvrir individuellement, qui est à être cultivé diligemment. Par cette pratique que nous avons adoptée, par la pratique qui est enseignée au village des Pruniers par notre maître, la pratique de l'instant présent, la pratique de la joie à chaque instant, la pratique de l'arrêt et du retour. Et si nous pratiquons de cette façon, je suis convaincu, je suis sûr que le sutra du diamant va se révéler pour nous. Nous pourrons, dépendamment de nos conditions, dépendamment de notre expérience, dépendamment de nos origines, dépendamment de notre. Dépendamment de nos souffrances individuelles. Percevoir les multiples facettes ou une de ces facettes qui peuvent nous permettre de nous libérer de nos propres souffrances. Je voudrais nous rappeler un peu le cheminement que nous avons fait depuis un certain temps ensemble. Pour vous rappeler, pour nous rappeler l'essentiel et les bases de notre pratique. Nous avons passé toute l'année dernière à étudier un sutra extrêmement important. Le Satipatthana Sutra. Et ce n'est pas un sutra que nous avons étudié pour oublier, pour tasser de côté, pour apprendre quelque chose d'autre. Mais c'est un sutra que nous devons, que nous pouvons emporter avec nous pour le restant de notre vie. Je ne sais pas si les conditions vont me permettre de pouvoir le faire ou non, mais j'ai un grand désir de pratiquer ce sutra en Birmanie et en Thaïlande. Ces deux berceaux du bouddhisme, Theravada, et la base de leur pratique, c'est le Satipatthana Sutra. Alors, si les conditions me le permettent, je vais me donner la chance de pratiquer ce sutra encore plus profondément dans le contexte des monastiques, des moines de la forêt. Pourquoi je vous fais part de ce désir? C'est pour vous faire comprendre, ou bien c'est pour vous rappeler que le Satipatthana Sutra, que nous avons étudié ensemble pendant toute l'année dernière, est un sutra très important. Et ce n'est pas un sutra, encore là, je me répète, que nous pouvons dire, ok, je l'ai fait, next. C'est un sutra à pratiquer. Et c'est un sutra à pratiquer à chaque jour et à chaque instant. La pleine conscience du corps dans le corps. La pleine conscience des sensations dans les sensations. Nous ne pouvons pas dire, ok, j'ai pris conscience de mon corps, c'est fait, c'est fini. Parce que nous parlons d'une rivière. Et lorsque nous avons étudié, appris ensemble le cœur de la Prajnaparamita, et que je vous ai décrit ou bien mentionné comment le Bodhisattva Avalokita, assis sur la berge des cinq skandhas, par la pratique de l'observation, les cinq skandhas a pu les trouver tous pareillement vides. Nous avons réappris ce sutra encore en début de cette année. Et je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais pour moi, la réalisation du Bodhisattva Avalokita qui est décrite dans le Prajnaparamita est aussi la même sagesse et le même enseignement que le Sutra du Diamant. C'est la sagesse de l'interdépendance de l'inter-être, de l'interpénétration, de l'inter-être qui est aussi le nom de notre ordre. Et c'est ce mot aussi qui peut décrire la sagesse ou l'enseignement du Sutra du Diamant. Ce matin, dans le texte que nous avons lu ensemble, c'est un texte que je nous inviterai à contempler et à discuter en discussion du Dharma un peu plus tard aujourd'hui, mais aussi peut-être à essayer d'appliquer ou bien de regarder ou bien de voir comment dans notre vie de tous les jours, comment par nos perceptions erronées, comment nous nous attachons à des signes et que nous ne pouvons pas plus voir, et que nous ne pouvons plus voir que ces signes apparents sont sans nous rappeler que, ne sont, que, ne, que ce ne sont que des signes que nous percevons et que la réalité qui est derrière est complètement différente. Et derrière toutes ces perceptions, ces signes que nous percevons, la réalité qui nous est décrite avec les trois sceaux du Dharma, qui nous est décrite par un mot qui est très important que nous avons entendu ce matin, l'incité, suchness, la vérité. J'hésite et je m'arrête ici parce que ce sont des concepts qui peuvent être très attrayant, très intéressant à essayer de comprendre et à discuter. Et j'hésite parce que ce serait en contradiction avec ce que je vous avais dit en commençant. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons discuter, ce ne sont pas des choses que nous pouvons lire, ce ne sont pas des choses que nous pouvons apprendre, mais ce sont des choses à découvrir par notre pratique diligente, constante, quotidienne, joyeuse. Nos grands maîtres se sont éveillés, non pas parce qu'ils ont complété un doctorat en bouddhisme. Le sixième patriarche est un illettré. Et c'est peut-être ce qui lui a permis de s'éveiller. Alors, je sais qu'aujourd'hui, Lily va vous faire part de beaucoup d'enseignements profonds et merveilleux. J'ai reçu le plan de sa causerie d'aujourd'hui et je suis très heureux de savoir ce que vous allez, de ce qu'elle va vous partager. Mais aussi merveilleux que cela sera ou puisse être, j'aimerais vous suggérer ou bien vous rappeler que la pratique que nous faisons ne se trouve pas dans les mots, ne se trouve pas dans des discours, ne se trouve pas dans les livres, mais elle se trouve en chacun de nous. Et par notre pratique de la joie à chaque instant, nous nous donnons la chance de pouvoir toucher ces trésors que nous avons en nous. La dernière fois, je vous ai souvent invité à pratiquer avec les 50 gathas de pratique. Present moment, wonderful moment. Je ne sais pas le titre en français. Lily les a dans un petit cahier que nous avons en vente au centre encore, je pense, pour 5 $. C'est ce genre de pratique qui peut nous permettre de découvrir les trésors de l'inter-être et de l'enseignement du Bouddha. L'enseignement du Bouddha qui n'a qu'un seul objectif, qui est résumé dans les quatre nobles vérités. Ces enseignements, l'enseignement du Bouddha nous est offert pour une seule raison. Celle de nous permettre de pouvoir transformer nos propres souffrances Alors, lorsque nous étudions le bouddhisme, lorsque nous pratiquons le bouddhisme, j'essaie toujours de garder cet objectif en moi, en ligne. Et c'est la même chose lorsque j'enseigne, de nous rappeler pourquoi nous sommes là, pourquoi nous voulons être dans cette pratique et pourquoi nous devons la faire. Nous devons la faire parce que nous devons de nous sortir de la souffrance ou des souffrances dans lesquelles nous sommes. Sinon, cet enseignement n'a aucun mérite. Donc, l'arrêt, le retour chez soi, la joie, à chaque instant, quand nous sommes en train de marcher, quand nous sommes assis, quand nous sommes allongés. Le Satipatthana Sutra. Comment pratiquer la pleine conscience du corps dans le corps, des sensations, des perceptions et de l'esprit dans l'esprit. Les 50 gathas qui nous permettent de pouvoir revenir dans l'instant à chaque instant. Et un lotus s'épanouit. Je ne sais pas si je voulais déjà mentionner ou non, mais les exercices qui y sont sont des instruments précieux pour nous accompagner dans notre sur notre chemin de pratique de transformation individuelle. Je vous invite à en prendre connaissance et je ne sais pas si je pourrais aussi vous le suggérer d'avoir votre copie personnelle de ce livre, de le regarder pour pouvoir vous établir chacun ou en groupe ou en communauté ou en sangha ou à l'institut ou un programme de pratique en choisissant les thèmes qui sont les plus appropriés ou bien qui sont les plus indiqués pour la situation dans laquelle vous pouvez vous trouver. Mes souhaits de bonne année, mes recommandations pour votre pratique pour la nouvelle année. Une autre nouvelle que je peux vous partager, qui est personnelle. J'ai perdu un grand ami la semaine dernière. C'est le frère est-ce qu'on appelle ça cadet, le plus jeune de la famille, le benjamin de la famille Ngo, qui est la famille de ma mère. Donc son plus jeune frère est décédé à Paris la semaine dernière. Il a 3 ans de plus que moi. Ils l'ont retrouvé dans sa salle de bain, dans son appartement, 3 ou 4 jours après son décès. C'est une personne qui m'est très chère. Je n'ai pas eu la chance de le voir très souvent durant notre vie, mais nous avons grandi ensemble. J'ai passé presque toute ma jeunesse avec lui et mon plus jeune frère. Et souvent, lorsqu'on était ensemble, ben, on était toujours dans la même maison et on était comme 3 frères très très proches. La nouvelle de son décès m'a particulièrement touché et m'a aidé aussi à réaliser ou à comprendre ou à voir comment l'enseignement du Sutra du Diamant peut nous aider à comprendre nos souffrances et à nous en libérer par la compréhension. J'étais triste. Mais ça m'a rappelé les enseignements que nous sommes en train de comprendre et de pratiquer ensemble. Les souffrances que nous vivons ont des causes. Et selon l'enseignement du Sutra du Dhamma, la cause de nos souffrances réside dans notre, ou bien est due à notre ignorance. Nous nous attachons à des signes, les signes de la naissance et de la mort. Nous sommes prisonniers de ces notions et concepts, et c'est pour cela que nous souffrons. Alors, dans l'enseignement du Sutra du Dhamma, le Bouddha nous propose, nous enseigne que nous pouvons nous libérer de nos souffrances en nous libérant de quatre croyances ou concepts. Et la première croyance qui nous tient enchaînés et qui nous fait souffrir. Nous l'avons appris très souvent ensemble, la notion du soi. Et nous avons aussi appris comment, par la pratique, comment par la réalisation, comment par la vision juste du noble chemin octuple, comment regarder afin de pouvoir voir que le soi est une perception erronée. Et nous avons appris et réappris très souvent avec notre maître à regarder la fleur afin de pouvoir voir que la fleur est seulement faite d'éléments non-fleurs. Regarder la fleur pour pouvoir voir que le soleil, la pluie, et tout ce qui est non-fleur s'y retrouve et y contribue. Le soi, le non-soi, la réalité de l'inter-être est la première notion qui nous tient enchaînés et qui nous... et qui est la cause de nos maux et souffrances. Il y a aussi trois autres notions que le Bouddha nous invite à regarder pour pouvoir nous en libérer et qui est aussi la cause de nos souffrances. Et Lily vous en parlera dans son enseignement. Et je vais lui laisser la parole. Il est maintenant 11 heures. Et je vais me retirer pour vous souhaiter une bonne continuation. Bonne continuation de bonne journée et au plaisir de nous revoir le mois prochain. Merci.
Alors bonjour. Alors c'est ce qui est drôle, quand on a lu ce matin, on a entendu un texte, on a entendu parler de H2O, et c'est H2O qui est en train de tomber sur nous en ce moment. Pendant tout le temps, je voyais cette neige qui passe de la pluie à la neige au verglas, complètement en transformation. Alors, le Sutra du Diamant. C'est un sutra magnifique. On l'appelle sutra du diamant parce que vous savez que les diamants peuvent couper les vitres et peuvent trancher. C'est très, très, très acéré, très tranchant. Et les enseignements qui sont dans ce sutra-là sont tellement forts et tellement puissants qu'on les compare à un diamant qui vont couper nos illusions et nos fausses perceptions, notre ignorance. Et comme Chen Wei l'a dit, c'est vrai, c'est pas un sutra. D'ailleurs, tous les sutras, tous les textes, ce ne sont pas des textes qu'on va lire et qu'on va. C'est comme on pourrait les répéter 10 fois si on ne les met pas en pratique. Si on ne les transpose pas dans notre vie quotidienne, personnelle, ça ne sert à rien. Mais inversement, comme on se pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on va à l'école? On va à l'école, on nous enseigne des tas de choses, et souvent, quand on va sur le marché du travail, on dit, avez-vous de l'expérience? Vous avez l'expérience du travail? L'expérience, ça s'acquiert quand on va rentrer dans le milieu du travail. Alors, c'est toujours cette contradiction-là. Il faut apprendre et en même temps, il faut avoir l'expérience. Alors, ce dont le Bouddha nous parle et qui nous propose et nous suggère de nous débarrasser, c'est des signes de tout de ce que nous avons appris quand nous avons été élevés, que nous avons appris à l'école, à la famille. Et pourtant, c'est avec ces signes-là qu'on a grandi. Ce sont ces signes-là qui nous font vivre. Mais une fois arrivé au moment où on désire se libérer, où on désire devenir plus léger et se débarrasser de tas de fausses idées, il faut se débarrasser de ces signes-là. Alors, oui, on les apprend, mais en même temps, il faut les regarder en profondeur et essayer de s'en libérer. Alors, j'ai choisi de faire un PowerPoint. Et je le faisais presque en riant parce que on utilise les signes pour se débarrasser des signes. Et c'est ça ce que j'ai fait. Moi, je suis très visuelle. Quand je vois les choses, ça me dit plus que les mots. Et en faisant ce PowerPoint-là, je pensais à vous, à ce que j'allais dire. Et c'est comme les dessins animés, les comiques. On les comprend vite, on n'a pas besoin de texte parfois. Il y a juste des bulles, des dessins, et on comprend. Alors, on va les regarder, on va les voir pour s'en débarrasser après. On ne va pas s'en débarrasser aujourd'hui, en un jour, mais c'est juste pour vous donner une idée de quoi on doit se débarrasser. Vas-y. Alors, le premier signe, tu arrives? Moi, l'idée du soi. Alors, Chen Wei nous a parlé de. Il a mentionné les quatre principes qui nous trompent et dont on a une fausse perception. Alors, je les ai écrits ici, mais vous ne pouvez pas les voir. Le soi, moi, l'idée de personne, une personne, l'idée d'un être vivant et l'idée de la durée de vie. Tout ça, c'est dans nos conceptions. Alors, moi, qui suis-je? On pense que ça, c'est moi. Et on se pense unique, on se croit unique. On se pense tout à fait différent de Jean, de Diane encore, de Yolande. Complètement. On pense qu'il n'y a rien, je n'ai aucun rapport avec elle. Et pourtant, plus on va dans la pratique et plus on s'aperçoit à quel point on est interrelié. Je suis faite de ce que vous voyez tomber en ce moment. Je suis faite d'eau, de terre, d'air, de feu, l'énergie de feu, les quatre éléments. Pas facile d'avoir un moi. Et puis, quand je me regarde dans un miroir, je vois un corps, n'est-ce pas? Et bon, on ne voit pas tout ce qu'il y a en dedans, mais on l'imagine. Et on pense que ça s'arrête là. Tu ne peux pas partir, il faut que tu... On a l'idée de, si on a appris bien sûr, le squelette, okay, les nerfs, les muscles, tout ça. Vas-y, il faudrait que je passe moi. Okay. Le Bouddha nous suggère, de, quand on est en méditation, de regarder toute chose comme si on regardait, comme si on avait des sacs de graines devant nous et qu'on les égrenait et qu'on les nommait. Alors, ça s'applique aux graines et ça s'appliquerait aussi à nous, juste pour le corps, et après faire ce même travail avec nos sensations, faire ce même travail avec les émotions, les perceptions et les formations mentales. D'accord ? Quand on a parlé des trois sceaux du Dharma, on a les trois sceaux parce que c'est vraiment c'est un tampon qui est bien figé sur le papier. C'est une idée que le Bouddha, c'est pas une idée, c'est le principe qu'il a découvert à la base quand il s'est assis en méditation, les principes d'impermanence et d'interdépendance. Et c'est le principe d'interdépendance qui régit tout ce que nous sommes, qui nous fait comprendre comment on est interrelié à l'univers et à tout ce qui nous entoure, et que mon corps fait partie de l'univers. Je suis dans l'univers et l'univers est dans moi. Alors déjà, juste à partir de ça, ma petite personne, là, mon petit corps, mon petit moi, commence à grandir et à s'étaler un peu partout dans l'univers. Et dans le principe d'interdépendance, ça va qu'une chose existe parce qu'une autre existe. Et parce qu'on dit cela, on dit qu'il n'y a pas de soi. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de soi? J'existe pourtant, je suis là. Mais en fait, c'est que je suis faite de tellement de choses qu'il n'y a pas une chose unique en moi. C'est ça le principe de l'interdépendance. Et c'est ça le principe de la non-identité unique. N'est-ce pas? Je n'ai pas un soi unique, même si je m'appelle Lily Gosselin. La fleur, vous le savez, vous l'avez appris à l'école. La fleur est faite d'air, de soleil, d'eau, de terre. Et c'est ça qui la compose tout entière. Si je sépare chaque pétale, chaque chose, je vais voir un pétale, une fleur, une tige. Mais tout ce qui la compose, c'est ça. C'est fait de tous ces éléments additionnés. Elle toute seule, elle n'est pas. Elle est faite d'une multitude de choses qui la composent. Elle n'a pas de soi en soi. Alors, il y a la présence des quatre éléments en moi aussi, comme en la fleur. Vas-y. Vas-y. Je suis faite de terre, je suis faite d'eau, d'air, feu, énergie. Ça, c'est une blague que j'ai trouvée. Oh, je peux pas, j'ai besoin d'être là. J'ai besoin de regarder ce que je... C'est une blague, ok? Extinction du feu et de l'énergie qu'il y a en nous. Vas-y. Tout ce qui me compose va faire, ce lotus va faire ce que je suis. Et on dit, on l'a vu, Thaï nous en parle, pas de boue, pas de lotus. Ça veut dire pas de terre, pas d'eau, pas de fleurs, pas de terre, pas de, d'énergie. Je n'existe pas, je ne suis pas. Okay? J'ai besoin de tout ça ensemble. Alors, qui me fait moi et quoi me fait moi? D'abord, ces quatre éléments de l'univers, mes parents, ma culture, dépendamment du pays. Vous savez qu'on dit que quand on est dans le sud, on a des réflexes plus lents ou parce que la chaleur, ou quand on est dans le nord, on est plus sérieux, on travaille. Tout ça, c'est des idées. Okay, ça peut s'avérer juste, mais le climat me fait comment je me comporte. Mon éducation, ma famille, mes amis, mon travail, ma nourriture, ce que je mange terrestre et ce dont je me nourris spirituellement. Si je viens en journée de pleine conscience, si j'écoute des enseignements, c'est ça qui me nourrit. Maintenant, la nourriture spirituelle va m'aider à regarder les choses vraiment telles qu'elles sont, les choses en profondeur, grâce à cela. Si je me contente de me nourrir de pommes de terre ou de pâtes ou de pain, tout ça, est-ce que ça va me faire évoluer? On a besoin de la nourriture spirituelle. Moi, c'est ce tout-là, toutes ces couleurs, tout cet amalgame de choses. C'est la beauté. Le moi commence quelque part, mais on ne sait pas où. Alors, il y a mes ancêtres, et Darwin disait que, il dit, n'est-ce pas, qu'il y a l'évolution du singe, et qui nous fait devenir homme. Donc, il y a de l'animal en moi. Il y a des végétaux en moi. Des minéraux qu'on transforme en vitamines. Toutes ces vitamines, on en a besoin, on les reprend parce qu'on n'en a pas assez. Alors, on fait partie intégrante de tout ça. La terre. Je suis la terre. La terre est en moi. Mais pour ça, il faut s'arrêter pour le voir. Et il faut voir les conséquences de mon comportement sur la terre. Sur ce qui me fait moi. Je pense toujours que je n'ai pas de responsabilité. Que ça ne fait rien si je ne me comporte pas bien. Si je jette ça ici. Si je ne fais pas ci. Si je ne fais pas ça. Et pourtant, c'était moi-même. C'est à moi-même que je cause du tort. Bon, Lamartine, objet inanimé, avez-vous donc une âme? Quand on voit des objets inanimés, les montagnes, les lacs, sont-ils vraiment inanimés? La terre est-elle inanimée? Non, pas dans la conception bouddhiste en tout cas, et même pas seulement dans le bouddhisme, dans la physique. Je ne suis pas forte en physique, mais la matière est animée. Alors, à la base même, on ne peut pas dire que moi je suis vivante et la matière est inerte. Je fais partie de tout ça. Alors c'est déjà une conception dont je dois me débarrasser. Alors, ou un cœur, la pierre, la roche. Je me rappelle à une retraite, quelqu'un avait dit comment est-ce que les rochers sont vivants? Mais regardez juste, quand vous voyez un coquillage sur la plage, bon, les coquillages, c'est une masse, vous pouvez voir. Vous pensez, c'est un rocher, ça ne bouge pas. Pourtant, le coquillage est tellement vivant. On voit sa transformation. Comment le sable, comment, si vous regardez parfois les coraux, comment, c'est une accumulation de sable, de sable, de sable, de sable, qui va devenir et qui va se transformer, qui va faire quelque chose. Ça, c'est la matière, ça, c'est la roche vivante. Maintenant, ma durée de vie. On pense qu'on est né là, n'est-ce pas? Ça, pour nous, c'est cette idée. Vas-y. Le moment de la conception. Okay. Les spermatozoïdes vont toucher l'ovule. Vas-y. Touche. Est-ce que c'est là, à ce moment-là, que je suis née? C'est là que ça a commencé? Gauguin a dit, d'où venons-nous? Que sommes-nous et où allons-nous? Quand on ne connaissait pas les enseignements, on pensait que, ben c'est ça, moi je suis née le 16 août. Je demande à papa, à maman, mais à quelle heure, mais à quelle heure, à quelle heure est-ce que je suis née? Bon, 3 heures du matin. 3 heures du matin, je suis née. Ah, avant, qu'est-ce que j'étais? Je n'existais pas. D'où est-ce que je viens vraiment? Avant, je ne me posais pas cette question. Pour moi, c'était juste 16 août, 3 heures du matin. Ça me suffisait. Ces beaux graphiques là. Okay. Tout petit, on se développe 9 mois. On voit que ça. Il y a plus que ça. Vas-y. Le cycle de vie. Dans notre esprit, à nous, c'est bébé, okay, enfant, adolescent, étudiant, adulte. Non. On vieillit, on meurt et puis c'est fini. Ça, c'est le cycle de notre vie. Et toute notre vie va se passer là. C'est ça le théâtre de notre vie. Juste dans ce petit cycle-là. Quand on est né, on est content, on fête les enfants, on est ravis. Mais quand on est mort, on pleure, c'est fini. Et pour nous, c'est juste 80, 90. Et c'est tout. Il n'y a plus rien. C'est tellement plus que ça. La comparaison avec le cycle de l'eau. Quand j'enseignais ça en deuxième année, les enfants adoraient parce que ils voyaient bien, ils comprenaient bien. Je ne dois pas m'approcher de là. Ils comprenaient tout sauf la condensation. Ils avaient 7 ans. Ils comprenaient l'évaporation parce qu'on faisait l'expérience avec la bouilloire. Alors on mettait des plaques d'aluminium et on voyait, on faisait des nuages dans la classe. Alors ils comprenaient très bien que l'eau commence à s'évaporer et puis cette petite vapeur qu'on voit dans la classe, si on ouvre la fenêtre ou même si on n'ouvre pas la fenêtre, elle s'en va et puis, bon, là, le nuage, là, c'est ça. C'est l'eau que je viens de faire bouillir. Et puis, quand l'eau est en haut, ou elle est juste dans la mer, comment est-ce qu'elle s'évapore? Grâce à la chaleur du soleil. Mais une fois qu'elle est dans le nuage, est-ce qu'elle reste là? Non. Alors, bien, on joue avec les enfants, on leur demande comment est-ce que je vais faire pour bouger. On demande au vent de me pousser. Le vent pousse les nuages. Et puis, quand il monte, il fait froid là-haut. Et puis, il y a quelque chose qui se passe. Les petites gouttes d'eau, toutes petites, 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 se collent l'une contre l'autre. Ah, elles ont froid. Puis, le nuage commence à grossir, ça s'alourdit. L'eau s'alourdit. Et puis, pouf, on ne peut plus voir. On ne peut plus rester en l'air. Elle reste en l'air parce que c'est léger, parce que c'est de la vapeur. Mais quand c'est lourd, ça tombe. Alors, c'est la pluie. La condensation, ils ne comprennent pas. On n'arrive pas à voir très bien. Okay. Nous, on le comprend. Et puis, c'est le cycle et ça recommence. Et ça va dans la montagne, et ça à la rivière, et dans l'océan, et ça recommence. Et c'est le cycle de l'eau. Et pour nous, c'est exactement pareil. Exactement pareil, comment? Est-ce qu'on monte? Est-ce qu'on va dans la... Non. Notre vie est comme ça. Notre vie, notre cycle de bébé, adulte, mort. Est-ce qu'on meurt? On pense qu'on meurt. On pleure quand on meurt, quand quelqu'un meurt. On n'est pas content. Ça nous fait beaucoup de peine parce que pour nous, avec nos yeux, notre conception, la personne là que nous aimions n'est plus là devant nos yeux. Elle n'a plus cette forme là. forme d'une personne qui marche de pied, de main. Et quand on comprend, quand on connaît les enseignements, et dans le Sutra du Diamant, et le Bouddha même avant cet enseignement, il nous fait voir les choses différemment. Il nous fait voir que de la même façon que nous sommes constitués, comme une feuille, comme une fleur, comme un oiseau, comme un arbre, et que nous sommes constitués des mêmes éléments, et que nous suivons le même cycle, c'est pareil. Lorsque les feuilles tombent en automne, on ne pleure pas. On est triste. Il y a beaucoup de dépression saisonnière quand l'hiver arrive. Mais en ce moment, il fait doux encore. Et en venant, je pouvais voir le gazon sous la neige. Et juste de voir ce gazon-là, à côté, beaucoup de neige fondue et de l'eau. Et pourtant, c'est comme si le gazon se dévoile et il est vert, il était très vert. C'est comme s'il disait, je suis là, tu n'as pas besoin de pleurer parce que tu ne me vois pas. Quand la neige recouvre tout, on est... Moi, je ne suis plus triste, ok? Je ne vais plus dire « on » parce que moi, ça ne me fait plus rien. Je sais que c'est là, okay? Je sais que le gazon est là. Et j'ai pris une photo, ah, dommage, j'aurais dû la porter. J'ai pris la photo des bourgeons dans l'arbre. Ils sont gros, ils sont là, ils sont prêts à éclore. Alors, la feuille passe par une transformation, tout simplement. Elle continue. C'est cette notion de continuité que nous devrions, avec laquelle nous devrions nous familiariser plus souvent. Continuité. Et transposer cette notion de continuité dans notre vie et pour les gens qui nous entourent. Parce que finalement, ce qui nous concerne, même si on veut devenir un Bouddha, okay, il y a notre vie de tous les jours. Il y a notre quotidien. Alors oui, il faut pratiquer, mais d'abord connaître ces notions-là. Alors c'est comme si on connaît ces grandes notions savantes, okay, l'université, on apprend toutes ces choses, et puis après, ok, elles sont là, on a ce bagage, et puis il faut s'en défaire. Pourquoi ? Pour se libérer. Pour se libérer de la peur, de la discrimination, parce qu'on fait des comparaisons. Et comment est-ce qu'on amène toutes ces discriminations dans notre vie de tous les jours ? Dans notre famille, dans nos relations, on juge. Bien sûr qu'on juge. On n'arrête pas de juger. On n'arrête pas de critiquer. Alors c'est ça la discrimination. Alors on part du sutra du diamant, on veut se débarrasser, même pas se débarrasser, mais plutôt regarder plus profondément, de les regarder bien en face, ces quatre notions-là. Moi, de quoi est-ce que je suis fait ? Personne, la notion d'une personne. Est-ce qu'il y a une personne, animale, végétal, et chaque chose est séparée dans le monde? Non. Tout intérêt. Et être vivant aussi. Les minéraux sont des vivants. Et quand on lit dans les textes, on lit « Regardez toutes les espèces en moi et autour de moi ». Alors, c'est cette communion avec tout qui va me libérer ou qui va amoindrir ma solitude. Quand on reste avec l'idée d'un soi unique, et quand on oublie qu'on fait partie de l'univers, et quand on ne pense pas, et quand on ferme les yeux sur les arbres, sur les animaux, sur la terre, sur le soleil, sur les orages, l'océan, les vagues, et quand on voit juste une personne qui va au travail tous les jours, qui prend son café, qui va au travail, qui prend le métro, qui retourne à la maison, qui va faire ses devoirs, qui va faire sa toilette, et qui va s'endormir, c'est tellement petit. Notre vie est tellement petite comme ça. Mais tout à coup, on s'arrête. on entend un coup de cloche et on décide qu'on veut regarder les choses différemment. Et on décide qu'on veut regarder les choses avec plus d'ouverture. Et alors ce sentiment de solitude dont on lit souvent dans la presse, les gens âgés sont seuls. Les centres d'hébergement, on en parle tellement. Ben, s'ils sont déjà très malades, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour leur parler, pour leur faire voir ça? Dans les textes, on lit souvent l'histoire de Anatta Pindika. C'était un homme d'affaires, très riche, qui a beaucoup aidé le Bouddha en offrant des coins de forêt, sur lesquels bâtir des monastères. Alors, grâce à son argent, il protégeait les moines et les monastères étaient créés. Alors, il pratiquait à côté du Bouddha, mais il n'était pas moine. Et à la veille de sa mort, Shariputra, qui est un disciple du Bouddha, et Ananda, qui était son plus proche disciple, sont allés le voir. Et il y a ce texte dans nos livres. Et comment tu te sens? Comment ça va? Tout ça. Oh, j'ai mal, je souffre beaucoup. Alors, il dit, alors écoute, on va faire avec toi la méditation. Regarde ton corps. Ce corps, dis avec nous, ce corps n'est pas moi. Je suis plus grand que ce corps. Ses yeux ne sont pas moi. Je suis plus grand que ses yeux. Etc. etc. Alors, on peut le faire. On n'a pas besoin de mourir ou d'être à la veille de mourir pour faire ça. L'année dernière, on a fait ça avec le Satipatthana Sutra. C'est ça qu'on a fait. Regarder le corps dans le corps. Ça veut dire dans le corps, ça veut dire dans mon corps. Pas regarder un corps dans une vitrine et dire « Oh, ça c'est ce que... » Non, ça c'est regarder mon corps dans mon corps, avec ce que mon corps ressent, avec ses souffrances, avec ses faiblesses, avec ses forces. Regarder les sensations dans mes sensations, quand elles arrivent. Sont belles, elles ne sont pas belles, elles sont neutres. Ça, c'est l'observation quotidienne, la pratique quotidienne. Alors, encore une fois, je reviens à l'idée de partir des grandes notions, des belles notions savantes, et les mettre dans notre vie de tous les jours. Et pas les regarder comme des termes, impermanence, interdépendance, nirvana. On a parlé de nirvana il y a 2 semaines. Le nirvana, le paradis, c'est merveilleux, il est juste là. Regardez, il y a du soleil maintenant. La pluie est partie, la neige est partie. Où? Là, quelque part. Si je regarde juste ça, je regarde le soleil qui se pose sur le dos de Yolande, sur les plantes. Tout à l'heure, elles étaient grises, les plantes, parce qu'il n'y avait pas de soleil. Un peu verdâtre. Le ficus, il est illuminé maintenant. Et en ce moment-là, juste maintenant, si je m'arrête, j'oublie les livres, et j'oublie les textes, et j'oublie l'ordinateur, et j'oublie les connaissances, l'apprentissage, les diplômes, les discours devant les directeurs de thèse, toutes ces choses qui me donnent du stress. Michel, un ami qui médite avec nous, Michel Turgeon, il me dit cette semaine, oh, il m'a écrit mes études, oui, ça me stresse, mais je sais comment regarder ce stress. J'en profite pour voir comment sont mes sensations, ce que je fis, comment est-ce que je réagis à ce stress. J'ai des examens, j'ai des trucs, je vais faire une maîtrise, c'est du stress. Alors, oui, les études sont du stress, mais si on les regarde que comme des études qui vont nous donner un beau papier là, qu'on va peut-être même pas encadrer. Moi, je ne sais pas où sont mes diplômes. Ils sont dans des livres. À quoi ça sert de les mettre sur un mur devant... Si dans la vie de tous les jours, ça ne me sert à rien, si je ne suis pas contente, si je suis malheureuse, si j'engueule tout le monde, à quoi ça sert? Alors, c'est ça. On lit la Prajnaparamita tous les mercredis, à toutes les retraites. Toutes ceux qui sont dans des monastères la lisent tous les jours. La forme est vide et le vide est forme. La forme, elle est vide parce qu'elle est pleine. le vide et forme. C'est le vide. C'est tout ça qui fait des formes. C'est l'eau plus la terre, plus le feu, plus le soleil. Plus... Tout ça, ça fait une forme. Ça fait moi, ça fait un animal, ça fait un écureuil, ça fait une plante. Tout ça. Mais quand on dit, ah, c'est vide, il n'y a rien dans le monde. Il y a tellement de choses que je ne peux pas les nommer. Alors, c'est cette plénitude-là qui va faire, qui va m'aider à tout laisser de côté et juste vivre ce moment-là, ce moment présent. Bientôt, on va faire des exercices de pleine conscience. Après, on va manger en pleine conscience. Après, on va marcher en pleine conscience. C'est... pleut pas. On va marcher, on va discuter ensemble, on va échanger, on va faire une relaxation. Il y a tellement de choses dans une journée juste pour pratiquer. Et on ne va plus se rappeler que, ah oui, ce matin, on nous a parlé du sutra du diamant. Ça va rester là. Derrière, là, il y a des feuilles, il y a plein de feuilles, il y a plein d'enseignements. Mais on les tourne. Je peux bouger un peu, là? Ça, c'était dimanche 20 janvier. C'est ça que je dois pratiquer. Rien. L'instant présent. L'instant présent, c'est rien. Parce que chaque instant présent, il n'y a rien. C'est juste une respiration. C'est juste maintenant. Et c'est cette merveilleuse faculté de pouvoir oublier que j'ai dormi tard, que je me suis levée tôt, que ça m'a pris je ne sais pas combien de minutes pour traverser la rue. C'est loin, tout ça. Alors, pratique, oh, merveilleuse pratique. Impermanence, oui. Tout ce qui me fait baver est fini. Tout ce qui va me faire baver n'est pas encore là. Maintenant, je n'ai rien. Maintenant, c'est juste un petit moment où je vais voir Yolande inviter la cloche. Et il n'y a rien.